Théologie fondamentale, Père Philippe, 10 février 1984, Saint-Joseph.
Nous allons continuer le traité de saint Thomas sur la prophétie, après avoir essayé de comprendre ce qu'est la prophétie, son essence. Nous précisons la cause de la prophétie. Nous devons maintenant, quelle est la cause de la prophétie? Alors nous avions vu un peu l'ensemble. La prophétie peut-elle être naturelle? Voyons tout de suite le sept contrats. Saint Pierre dit dans sa deuxième épître, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. La prophétie ne vient donc pas de la nature, c'est un don du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez être prophète naturellement? Moi j'ai l'instinct de prophétie, je sens d'avance, j'ai toujours un rêve prémonitoire qui m'annonce que ça doit arriver. Cette nuit, j'ai bien senti qu'il y aurait un drame qui se passerait. Alors, est-ce que je suis prophète? Est-ce que c'est de la prophétie, ça? Il peut y avoir, comme on l'a vu à l'article précédent, une double connaissance prophétique des événements futurs, en eux-mêmes et dans leur cause. Or, connaître les événements futurs en eux-mêmes est le propre de l'intelligence divine, à l'éternité de laquelle toutes choses sont présentes, comme il a été prouvé dans la première partie. Aussi, une telle connaissance de l'avenir ne peut-elle venir de la nature, mais seulement de la révélation divine. Dieu seul voit toute la succession du temps dans l'instant de l'éternité. Donc pour Dieu, il n'y a pas de futur contingent, tout est présent actuellement. Donc Dieu connaît les futurs contingents dans leur existence actuelle. Ça, évidemment, ça vous donne un torticolis au point de vue intellectuel. Non ? Parce que vous avez futur contingent, je suis dans le temps, l'éternité qui voit toute la succession et donc qui voit les futurs contingents. Vous avez les futurs contingents. Vous êtes ici. Futurs contingents. Dans 10 ans. Pas mal. Dieu. Et dans l'éternité, tout le temps est ramené au lit à l'instant de l'éternité. Donc, qu'on soit ici, qu'on soit là, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout est vu dans l'instant de l'éternité. Pour Dieu, pas pour moi. Pour moi, c'est très important. Si, dans la succession du temps, j'ai la possibilité par ma connaissance prophétique que nous avons tous, nous avons la possibilité de rejoindre l'éternité et de tout voir dans l'éternité. Tout est vu actuellement dans l'éternité. Vous voyez, cette chose difficile pour nous, mais le futur contingent, ce qui arrivera dans 10 ans, mais ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, je ne peux pas le voir. C'est la fiction classique. Hein. Petit gosse qui te dit ça. Et on est tous des petits gosses, hein, face à l'éternité. On est tous des... voilà, mais ça n'existe pas encore, comment Dieu peut le voir? Parce que ça n'existe pas. Ça existe dans l'éternité de Dieu. ça n'existe pas. En acte dans l'éternité, puis au bon moment, Noé, Enoch, je veux dire, va dégringoler sur la terre, mais c'est ce qu'il attend dans l'éternité, pour redégringoler au bon moment. Alors, c'est pas comme ça, c'est pas le futur contingent qui existe dans l'éternité tel qu'il est comme futur contingent, non. Mais le futur contingent existe dans l'éternité en ce sens qu'il existe dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Non pas comme un futur contingent, mais comme une réalité qui doit arriver. Pour Dieu, il n'y a pas de futur contingent, c'est bien évident. Donc Dieu voit tout dans son éternité. Vous voyez le passé, hein, c'est très curieux. Alors quand vous entrerez dans la vision béatifique, quand nous entrerons dans la vision béatifique, nous verrons tout dans l'éternité de Dieu. Le passé, le présent et le futur. Et tout sera vu. Donc on assistera à la création. Le passé est actuel, le futur est actuel, donc on assistera à la création. C'est très intéressant ça, parce que c'est, vous savez, c'est la nostalgie de certains philosophes. Certains philosophes ont eu cette nostalgie de dire la philosophie, c'est d'assister à la création. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même lumen. Hein. Petite variété, un lumen rose, un lumen blanc. Alors on assistera à la création. Il faut y penser de temps en temps à l'éternité, voir ce que ça représente. Hein. Tout regarder dans la lumière de l'éternité. C'est ça que pour Dieu. Et c'est pour cela, nécessairement, qu'on ne peut connaître les futurs contingents avec certitude qu'en participant à la connaissance de Dieu mesurée par l'éternité. Toutefois, les événements futurs peuvent être connus dans leur cause, en vertu d'une connaissance naturelle, même par l'homme. Évidemment, pour 10 ans, c'est pas commode. Hein. C'est évident qu'un événement qui arrivera dans le monde est déjà connu dans un in lumbis Abrahae, dans le sein d'Abraham était contenu Jean-Baptiste. Donc, en connaissant la cause, vous connaissez Jean-Baptiste. Hein, chose d'assez particulier. Dieu, oui, nous connaissons plus ou moins. Donc, toutefois, les événements futurs peuvent être connus dans leur cause en vertu d'une connaissance naturelle, même par l'homme. C'est ainsi que le médecin connaît à l'avance la santé ou la mort dans leur cause. Il faut un bon médecin. Je lis dans votre estomac que vous n'en avez plus pour longtemps. Je lis dans votre cœur que vous touchez quelque chose d'extrême, hein, donc dans les causes. C'est ainsi que le médecin connaît à l'avance la santé ou la mort dans leur cause, grâce à l'expérience qu'il a du rapport de ces causes à leurs effets. Je voudrais être très prudent là-dessus. Hein. Pronostic, ça n'est pas encore pour 15 jours. Cancéreux, ça dure. C'est vrai, ça peut durer quelquefois, beaucoup plus que ce qu'on a prévu. Et d'autres fois, c'est plus rapide. Cette connaissance des événements futurs que l'homme a de par sa nature, on peut l'entendre de deux manières. Premièrement, en ce sens que l'âme serait immédiatement capable de connaître l'avenir, en vertu du sens inné qu'elle possède. Ainsi, comme le remarque saint Augustin dans son commentaire sur la Genèse, certains prétendaient que l'âme humaine avait en elle-même une puissance de divination. Ce fut, semble-t-il, l'opinion de Platon. D'après lui, les âmes ont une connaissance de toutes choses par la participation aux idées. Mais cette connaissance est obnubilée du fait que les âmes sont unies à un corps, et plus ou moins, d'après les individus, suivant que leur corps est plus ou moins pur. En cette hypothèse, on pourrait soutenir que les hommes dont l'âme n'est pas très enténébrée par suite de l'union avec leur corps, sont capables de connaître certains événements futurs en vertu de leur propre science. Mais à cette théorie, saint Augustin fait objecter, pourquoi l'âme ne peut-elle pas l'avoir toujours, cette puissance de divination, alors qu'elle la désire toujours? Vous voyez bien, ça c'est une question, donc on laisse tomber cette chose-là, c'est pas intéressant, mais c'est très curieux que, de fait, l'homme a toujours essayé de connaître l'avenir. Tout le temps. Par tous les moyens. Mais il semble plus vraisemblable que l'âme acquiert ses connaissances par l'intermédiaire des réalités sensibles, d'après l'enseignement d'Aristote, ainsi qu'on l'a vu dans la première partie. Et opposition de Platon et Aristote qui reviennent, c'est toujours intéressant ça. La manière dont saint Thomas oppose Platon et Aristote. Historiquement, vous ne pourriez pas faire comme ça. C'est intéressant. En gros, c'est très juste. Pour Aristote, tout passe par les sens. Pour Platon, non. Tout passe par des connaissances autres, antérieures, qui permettent à l'âme de se ressouvenir. Il est donc préférable, voyez bien, il est donc préférable quand le platonisme de saint Thomas en prend un gros coup ici. Il faut bien le comprendre. Il est donc préférable d'adopter l'opinion suivante. Les hommes n'ont pas la connaissance de ces événements futurs, mais ils peuvent l'acquérir par voie expérimentale. Ils sont alors aidés par leur disposition naturelle, suivant que leur puissance imaginative est plus parfaite et leur intelligence plus lucide. Je crois que c'est l'opinion qu'on doit soutenir, ça. L'opinion préférable que saint Thomas donne. Il ne rejette pas saint Augustin, il y a saint Augustin et Platon. Ce n'est pas si catégorique. Hein. C'est bien moins catégorique que ce langage qu'on avait hier hein, par rapport aux panthéistes. Cette fausseté, il est préférable. Des tas de nuances comme ça. Et ça, je crois que c'est important à le voir, parce qu'il ne faut pas être trop catégorique. Et ideo medius est dicendum alium modo, quod preconditionem tuam futurorum omnis non habent, sed acquirere possunt per viam experimentalem, in qua juventur per naturalem dispositionem secundum quam in homine invenitur perfectio virtutis imaginative et claritatis indulgentiae. Toutefois, cette connaissance des événements futurs diffère de celle qui relève de la révélation divine de deux manières. Celle-ci peut porter sur n'importe quel événement et elle est infaillible. Au contraire, la connaissance acquise naturellement ne vise que les effets qui sont du ressort de l'expérience humaine. La prophétie surnaturelle possède une vérité immuable, la seconde, au contraire, peut être sujette à l'erreur. La première connaissance appartient en propre à la prophétie, mais non pas à la seconde, car la connaissance prophétique, on le sait déjà, a pour objet des réalités qui dépassent universellement la connaissance humaine. Il faut donc dire que la prophétie proprement dite ne peut venir de la nature, mais seulement d'une révélation divine. C'est exactement le procédé que prend à Rome ceux qui étudient les révélations bibliques. Ils se posent intrinsèquement ce qui a été dit dans telle ou telle circonstance peut relever d'une connaissance naturelle. Ou s'il y a tel ou tel aspect qui montre bien que la source de cette connaissance ne peut pas être une connaissance naturelle. C'est-à-dire la base de très important de voir que l'Église reste liée à ça. Lecture du réfectoire de midi. Il y a toute une méthode où on montre bien comment on peut accepter tel ou tel fait dit surnaturel Est-ce qu'il est surnaturel ou est-ce qu'il n'est pas? C'est une chose très intéressante, je dirais. Ça, c'est très très intéressant, même au point de vue purement humain. C'est voir les limites, le seul. Comment vous le faites? Alors, très bien souligné, le père Lavrovin a très bien souligné une attitude sceptique d'a priori, ou affectif, ou intellectuel, ou affectif, ou intellectuel, ou une attitude de peur, de crainte, alors, qui fait que la prudence fait qu'on n'a plus aucune initiative possible et on ne regarde plus les événements comme ils doivent être. Donc, voyez, c'est assez facile à comprendre, hein, je crois. Je résume pour que vous voyez bien. Les futurs contingents vus en eux-mêmes ne peuvent être vus que par Dieu, dans son éternité, le petit chat. L'éternité, l'œil de Dieu, qui est un œil. Il voit ce futur contingent qui arrivera dans 10 ans. Vous, qu'est-ce que vous envoyez? Rien. Mais vous pouvez, avec un peu de sens, vous pouvez arriver à détecter, à partir de tel événement, les conséquences. Le flux et le reflux. Vous pouvez détecter ça. En détectant ça, est-ce que c'est un instinct prophétique? Non. C'est tout simplement être astucieux. Je détecte la chose. Je reste toujours dans l'opinion. C'est du probable. C'est du probable parce que je ne peux pas avoir plus que de l'ordre de l'opinion du probable. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y aura toujours le facteur liberté qui interviendra. Il y aura toujours quelque chose qui peut intervenir et que je ne peux pas prévoir. Je prévois une prospective. Vous faites une prospective de 2 ans, 3 ans, 10 ans, suivant l'importance de vos responsabilités. Si vous avez peu de responsabilités, une prospective de 6 mois, ça suffit. Pour le charme. Prospective de 6 mois, suffisant. Mais pour autre chose, c'est différent. Pour le progrès de l'intelligence, pour la sainteté. Alors, combien de temps y aura-t-il ici un saint canonisé? C'est quand même intéressant de se poser la question. Futur contingent, évidemment. Alors, vous voyez ma petite prospective, hein, étant donné la ferveur étonnante des novices, je suis persuadé que s'il continue d'ici 10 ans, il y aura des phénomènes extraordinaires. Vous voyez, alors, on fait une prospective comme ça. Je dis prospective, l'ordre de l'opinion. Pas plus. Si Dieu me donne la connaissance par mon dépôt, ah, ça vient de lui. Parce que Dieu peut me donner la connaissance aussi par mon dépôt. Ça, c'est évident. Je crois que ça, c'est assez facile à comprendre. Le futur contingent, c'est toujours la question du futur contingent. Une question philosophique très curieuse, la question des futurs contingents, qu'Aristote a étudié. Il ne faut pas oublier, Aristote a étudié la question du futur contingent. Est-ce que je peux avoir une connaissance certaine des futurs contingents? J'ai dit non, c'est bien évident. Est-ce que les futurs contingents sont soumis au principe de non-contradiction? Non. Que je suis dans l'ordre du possible. Et que le possible contient l'être et le non-être. Ça, c'est très intéressant pour la capacité de l'intelligence. Hein. Parce que le possible contient l'être et le non-être. Donc l'intelligence, dans sa possibilité, contient l'être et le non-être. D'où la possibilité d'une position heideggerienne. D'où la position d'une position hegelienne. Parce que l'intelligence contient en elle le positif et le négatif. Elle est au-delà de la contradiction, comme intelligence. La vitalité de l'intelligence est au-delà de la contradiction, parce qu'elle peut affirmer une idée. l'ordre du possible. Alors, voyons maintenant les objections. Première objection. Cela semble possible. Saint Grégoire écrit en effet que parfois l'âme elle-même possède une telle subtilité qu'elle est capable de prévoir certains événements. Saint Augustin dit de même que l'âme humaine, abstraite des sens du corps, est apte à prévoir l'avenir. Ça, c'est bien Augustin. Séparez-vous le plus possible de tous vos sens et puis attendez. Ça vous tombera dessus. Or, c'est là le rôle de la prophétie. L'âme peut donc arriver naturellement à la prophétie. On sent très bien ça. En poussant un peu, on arrive à des choses comme ça. Jeûner longuement, vous séparer de toute sensible, on sent très bien qu'on pourrait arriver à détecter certaines choses, un regard un peu plus subtil, un peu moins grossier. On arrivera à saisir quelque chose. Alors, voici la réponse de saint Thomas. Saint Thomas, il a deux pieds sur terre. Lorsque l'âme est abstraite des réalités corporelles, elle est plus apte à percevoir l'influx des substances spirituelles. Après une jeunesse jeune, vous êtes plus proche des anges. Tandis que quand vous avez pris un bon repas, n'est-ce pas, de centenaire, eh bien, un bon repas, vous êtes moins proche des anges. C'est ça que saint Thomas nous dit. Moi qui ai fait l'expérience. Lorsque l'âme est abstraite des réalités corporelles, elle est plus apte à percevoir l'influx des substances spirituelles. Ça, c'est exactement ce que dit Aristote. Nous avons une possibilité d'être plus proche des substances spirituelles, mais il ne dit pas les anges, hein, c'est pas les anges. Il dit les spiritualismes substantiels. Donc c'est le vieux, la réminiscence d'Aristote. Si vous jeûnez, c'est une des raisons pour lesquelles il faut jeûner. Si vous jeûnez, vous êtes plus proche des anges. Vous avez un regard un peu plus angélique. Plus proche des anges. C'est pour ça que vous jeûnez. Elle ressent aussi plus facilement les mouvements subtils que laissent dans l'imagination humaine les impressions des causes naturelles. Toute influence que l'âme ne peut recevoir quand elle vaque aux choses sensibles. Quand elle vaque aux choses sensibles. C'est-à-dire quand elle mange, qu'elle boit. C'est beaucoup plus difficile de spéculer quand on mange et quand on boit. C'est pourquoi saint Grégoire écrit que l'âme, à l'approche de la mort, ça c'est très intéressant, pour ce fameux livre qui a été écrit, hein, sur la vision qu'on a après la mort, prévoit certains événements futurs grâce à la subtilité de sa nature. Parce qu'elle perçoit alors les moindres impressions. Subtilité plus grande, un détachement plus grand. Quand on est plus proche de la mort, on a le sentiment d'être plus proche de la mort, on est beaucoup plus abandonné vis-à-vis d'un tas de choses. Plus beaucoup de choses qui comptent. Hein. Si vous deviez mourir ce soir, qu'est-ce qui compterait? Une seule chose, grandir dans le jardin. Une seule chose, c'est la seule chose qui compterait. C'est pour ça que quand on se met dans la disposition de disparaître le soir, eh bien, c'est merveilleux. Il n'y a qu'une seule chose qui reste, grandir dans la charité. Il n'y a pas besoin de prédicateur, parce que l'amour imminent, c'est le merveilleux des prédicateurs. Ça ne veut pas dire que tous les prédicateurs sont des morts imminentes. Vous voyez, j'inverse, c'est pour vous montrer la raison sine qua non, pour que vous puissiez comprendre. Padre Pio, vous savez, envoyé comme ça au ciel, les gens qui étaient dans des situations impossibles. La mort imminente, quand vous approchez de Padre Pio. Elle peut aussi connaître l'avenir par une révélation angélique. Alors, ici, saint Thomas appelle révélation angélique. tandis qu'avant, il mettait les substances spirituelles. Alors, il se demandait s'il y a quelque chose de particulier. Révélationnel, individuel. Elle peut aussi connaître l'avenir par une révélation angélique. En tout cas, ce n'est pas par sa propre puissance. Autrement, remarque saint Augustin, elle aurait en son pouvoir de prévoir l'avenir. Chaque fois qu'elle le voudrait, en ce qui est évidemment faux. Ce qui est évidemment faux. Je n'ai aucun pouvoir de connaître ce qui va arriver. Mais c'est vrai que certaines dispositions intérieures me mettent plus proche des événements futurs. Ça, c'est sûr. Alors, ou influence des substances spirituelles, ou influence des anges. Alors, je ne sais pas si saint Thomas a parlé des substances spirituelles, là, de façon tout à fait particulière. Ou influence des anges. Je crois que c'est les anges. Je ne verrai pas très bien ce que ce serait. Alors, seconde objection. La vigueur de l'âme humaine est plus puissante dans l'état de veille que pendant le sommeil, heureusement. Or, il y a des gens qui, dans leur songe, prévoient certains événements, ainsi que l'observe le philosophe. À plus forte raison, l'homme peut-il naturellement connaître l'avenir ? Ça, c'est très joli comme objection. C'est très très joli. Oui, elle est très facile à comprendre. Vous avez une perception plus grande quand vous dormez, et c'est dans ce sens-là que vous pouvez prévoir certaines choses. Vous avez des prémotions, des choses qui font que vous devinez qu'il va arriver quelque chose. Or, la connaissance intellectuelle est plus intellectuelle quand je suis éveillé que quand je dors. Donc, si quand je dors, je suis capable de recevoir certains avertissements des anges, à fortiori, parce que si le fait de dormir était plus parfait que d'être éveillé, je ne quitterais pas mon lit. C'est évident, si je n'ai plus de mérite de dormir, je dormirais toute la journée. Alors, je dors pour être éveillé, et non pas l'inverse. Mais il semble plus vraisemblable. Alors, réponse de saint Thomas. Mais il semble plus vraisemblable. Vous voyez, c'est très curieux comme saint Thomas reste virius. Hein. C'est quia virius et sibilitur. C'est pas une façon absolue, c'est pas tranché de façon absolue. On est dans un domaine très délicat. Et ça se sent. Mais il semble plus vraisemblable que l'âme acquiert ses connaissances par l'intermédiaire des réalités sensibles, d'après l'enseignement d'Aristote. C'est vous deux. Hein, c'est pas affirmé de façon tellement absolue. Vérité. Ainsi qu'on l'a vu dans la première partie. Il est donc préférable d'adopter l'opinion suivante. Donc, c'est le point de vue de la connaissance. La prescience de l'avenir que l'on a dans les songes provient soit d'une révélation des substances spirituelles, soit d'une cause corporelle. Dans les songes, c'est le traité des rêves que saint Thomas reprend ici, hein, le traité des rêves d'Aristote. La prescience de l'avenir que l'on a dans les songes provient soit d'une révélation des substances spirituelles, soit d'une cause corporelle, comme on l'a établi à propos de la divination. Ces modes de connaissance sont plus actifs pendant le sommeil que pendant la veille, car l'âme de celui qui veille est occupée par des réalités extérieures et sensibles. Elle est donc moins apte à percevoir les impressions subtiles des substances spirituelles ou même des causes naturelles. Cependant, le jugement est alors plus parfait car la raison a plus de vigueur dans la veille que dans le sommeil. Mais la raison donne saint Thomas. Qu'est-ce qui me permet d'avoir une certaine connaissance de l'avenir quand je dors par mes rêves? Ou l'influence des substances spirituelles? Ou des causes matérielles. Des causes matérielles, c'est ça, des choses matérielles, des causes corporelles. exposam corporali. Et saint Thomas revoit à la question 95, article 6. Alors, on est plus apte, quand on dort, à recevoir l'influence des anges pour faire l'écriture. Les anges viennent plus facilement éduquer les hommes, surtout les hommes. Vous voyez, la nuit, Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est toujours la nuit, et ça veut dire souvent la journée. C'est un peu de différence. C'est bon que Saint-Joseph, il n'est capable de recevoir l'influence des anges que la nuit. Autrement, il est trop occupé à son métier, très réaliste. Tandis que la nuit, il est disponible. Beaucoup plus disponible. Marie était plus disponible pendant la journée. C'est curieux, ces choses-là. Et alors, la cause matérielle, ça peut venir d'un tas de choses. Ça veut bien, c'est les anciens, Saint-Augustin, je veux dire, Aristote l'aimé, Saint-Thomas le reprend. C'est sûr que quelquefois, une mauvaise digestion peut être occasion de donner des cauchemars. Ça, c'est sûr. Et dans les cauchemars, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se mêle et qui vous donne comme une espèce de peur d'un événement qui doit arriver. Alors, la troisième objection. L'homme est par sa nature plus parfait que les animaux. Or, certains animaux possèdent une connaissance anticipée de l'avenir qui les conserve. Ainsi les fourmis.
C'est mis sur le dos la fourmi, moi, tout à fait.
Ainsi les fourmis savent à l'avance qu'il pleuvra. Avant les pluies, ne commencent-elles pas à enfouir leurs graines? Voyez, l'élève d'Albert le Grand. Est-ce que saint Thomas a gardé d'Albert le Grand? Ça, c'est dans Albert le Grand. Bien évident, d'ailleurs le grand regardait ça avec beaucoup d'amour. Regardez, vous savez, les petits des corbeaux, ça en commentant genre, les petits des corbeaux qui sont tout blancs. Alors leurs mères ne reconnaissent pas leur enfant, parce qu'elles sont noires. Alors elles laissent les petits des corbeaux tout seuls. Et c'est la providence qui doit venir donner aux petits des corbeaux leur nourriture. On voit très bien, saint Albert le Grand s'étant penché sur le nid d'un corbeau, ayant vu le bec ouvert des corbeaux, toujours ouvert. C'est la tête d'un petit corbeau, c'est extraordinaire, c'est tellement gros, la tête du petit corbeau. Et alors le bec est encore plus grand, et alors on ne voit plus que des becs ouverts. Quand vous regardez ça, et alors ils sont affamés. Et alors saint Albert le Grand disait, mais oui, ils ne reconnaissent pas, parce que agens simile sibi. Alors si l'agent noir produit le blanc, c'est il ne reconnaît pas le blanc. Il ne reconnaît pas ça, c'est son petit. Alors, il ne reconnaît pas son petit, et c'est la Providence qui reconnaît le petit. C'est dans Albert le Grand, ça. Ils sont sans pas mentir sur Job. Quand vous aurez le temps, lisez ça. Ce sont des choses admirables qu'on retient, mais c'est des choses admirables. Les choses sérieuses d'Albert le Grand sur Job, ça, c'est différent. Mais c'est... Au petit des corbeaux, il donne la nourriture. Vous savez, c'est la phrase de Job. Au petit des corbeaux, ils donnent leur vie. Alors, saint Albert le Grand, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les petits des corbeaux? Ah, mais c'est parce qu'ils sont blancs. Ainsi, les fourmis savent à l'avance qu'il pleuvra, avant que les pluies ne commencent-elles pas à enfouir leurs graines. De même, les poissons prévoient les tempêtes, puisqu'ils fuient le lieu où elles vont éclater. Dans les cyclones. Les hommes peuvent donc, à plus forte raison naturellement, connaître à l'avance l'avenir qui les intéresse. Or, n'est-ce pas là de la prophétie? La prophétie est donc naturelle. Les animaux eux-mêmes ne prévoient pas les événements futurs, si ce n'est dans leur cause, grâce à leur imagination. La petite imagination de la fourmi, soit. À ce point de vue, ils sont supérieurs aux hommes, car l'imagination des hommes, surtout dans l'état de veille, agit plus d'après la raison que d'après l'impression des causes naturelles. C'est évident, on a tellement combattu dans un noviciat l'imaginaire qu'au bout d'un certain temps, l'imagination est entièrement canalisée par la raison. Oui, saint Thomas. Ça, je suis sûr pour saint Thomas. Son imagination était entièrement canalisée par la raison. C'était pour son intelligence, imaginaire. Donc, il ne laissait pas son imaginaire passer à droite ou à gauche. Tandis qu'au contraire, les oiseaux ne font pas de noviciat, les fourmis ne font pas de noviciat, et laissent leur imagination se développer. Et, tandis que le noviciat vient, vous êtes dans l'imaginaire, soyez la présence à ce que vous faites. Voyez. Alors vous êtes obligé, vous voyez, d'éduquer votre imaginaire pour que la raison prenne possession de l'imaginaire. C'est très vrai, ça. C'est très vrai que toutes les méthodes de science, toutes les méthodes d'enseignement luttent contre l'imaginaire. Tandis que lorsqu'il s'agit des animaux, on les laisse parquer où ils veulent. Car l'imagination des hommes, surtout à l'état de veille, agit plus d'après la raison que d'après l'impression des causes naturelles. Oui, ça, c'est digne de saint Thomas. Je ne sais pas si on oserait dire ça d'un novice, je ne sais pas, si pour chacun d'entre vous, vous pourriez dire ça en toute vérité. En toute vérité. Or, chez l'homme, la raison exerce une action beaucoup plus féconde que l'impression des causes naturelles chez l'animal. Toutefois, la grâce divine qui inspire les prophètes est pour l'homme un adjuvant encore bien plus puissant. Donc, c'est facile à comprendre. L'animal peut, sur certains points, dans l'ordre de l'imagination, avoir une perspicacité imaginative plus grande que l'homme. Le chien de chasse, quand il sent le gibier, prophétise. Il dit l'invisible, il le rend visible. Vous voyez, c'est bien ça. Et il montre qu'il a senti quelque chose. Alors, c'est l'odorat lié à l'imaginaire. Et l'odorat lié à l'imaginaire fait qu'il devine. Alors que le chasseur, qui ne pense qu'à tirer, avoir son fusil, donc qui est dans l'ordre de l'efficience, il ne sent rien. Sur ce point, le chien de chasse l'emporte sur le chasseur. C'est la même chose aujourd'hui, hein. Quand vous êtes dans le train et que les douaniers arrivent avec leurs petits chiens qui détectent toutes les drogues. Et on voit très très bien ça. Ces chiens sont une espèce d'avidité extraordinaire de sentir et détecter les choses. On fait même dans les armes aujourd'hui. On traverse pour dénicher ceux qui peuvent avoir des armes. Pour éviter toutes les bombes qui détruisent. Depuis Marseille, ça commence à se faire. On est dans un climat de terreur. Alors, vous voyez bien, l'animal, là, a quelque chose de plus que l'homme. Et l'homme le reconnaît, il s'en sert. Ça ne veut pas dire du tout que l'intelligence humaine ne pourra pas, dans d'autres domaines, l'emporter sur l'animal. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui peut échapper à l'homme. Alors, dernière objection. On lit, en outre, au livre des Proverbes, « Enlevez la prophétie, il n'y a plus de peuple. Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus. » La prophétie est donc nécessaire à la conservation des hommes. Or, la nature ne manque point de ce qui est nécessaire. La prophétie est donc nécessaire. La prophétie est donc naturelle. Alors, réponse. La lumière prophétique s'étend aussi à la direction des actes humains. Et en ce sens, la prophétie est nécessaire au gouvernement du peuple, surtout en vue du culte divin. Or, à cela, la nature ne suffit pas, mais la grâce est indispensable. C'est intéressant à voir ces deux aspects. On pourrait dire que le culte divin ne relève pas nécessairement dans son naturel. C'est culte divin de la foi qui relève de la grâce. On voit ici aussi comment saint Thomas montre comment certains animaux peuvent avoir un instinct, nous dirons un instinct prophétique. Mais quand le chien arrive à saisir qu'il y a un gibier, quand il saisit au loin quelqu'un, on dira plus de l'ordre de l'instinct. Alors, l'instinct prophétique, oui. Quand il s'agit de détecter une présence, quand il s'agit de déterminer une connaissance, on dira un instinct prophétique. Alors, en réalité, ce n'est pas un instinct prophétique, hein, tout simplement, sa sensibilité liée à son imagination. Alors, article 2, la révélation prophétique se fait-elle par l'intermédiaire des anges ? Alors, ça, c'est une grave question, très intéressante au point de vue proprement théologique. Le pseudo-Denis écrit « Les visions divines parvenaient à nos glorieux pères par le moyen des vertus célestes. » Or, il parle ici des visions prophétiques. La révélation prophétique se fait donc par l'intermédiaire des anges. Ça, c'est Denis. Denis, le grand théologien des anges. Hein, la hiérarchie angélique. Il faut tout savoir, lui, une fois dans sa vie, la hiérarchie angélique. Hein. Ça, Denis, c'est une chose qu'on doit lire, parce que c'est une chose importante. Ça a joué un très grand rôle dans saint Thomas. Il y a le traité de la théologie mystique, qui est très court, le traité des noms divins et le traité de la hiérarchie angélique. Il faut avoir lu Denis. C'est court comparativement à saint Augustin. Saint Augustin, il faut lire, mais je ne dis pas d'avoir tout lu. C'est difficile. Mais Denis, il faut l'avoir lu. Même pour connaître bien saint Thomas, il faut l'avoir lu de nous. Alors voyons la dernière objection. Voyons le corps de l'article. D'après l'apôtre, ce qui vient de Dieu se fait avec ordre. Et c'est une loi de l'ordre divin, selon le pseudo-Denis, de gouverner les êtres intermédiaires de gouverner les êtres inférieurs par des êtres intermédiaires. Dans une grande famille, les benjamins sont mis en parrainage avec les intermédiaires. Hein. Oui, c'est de l'ordre du gouvernement divin, ça, c'est le parrainage. Alors, c'est les inférieurs, les derniers, les plus petits, les plus jeunes, sont mis en parrainage. Et quand ils quittent le parrainage, ils deviennent eux-mêmes parrains d'autres. Vous voyez, ça, c'est la hiérarchie divine. Or, les anges ne tiennent-ils pas le milieu entre Dieu et les hommes ? Ils participent en effet plus que les hommes à la perfection de la bonté divine. Et c'est la raison pour laquelle les illuminations et les révélations divines parviennent de Dieu aux hommes par le moyen des anges. D'autre part, la connaissance prophétique dépend de l'illumination et de la révélation divine. Il est donc manifeste que les anges en sont les agents intermédiaires. Donc vous voyez, c'est toute question des rôles des anges. Là aussi, on est très loin de ça. Mais c'est quand même beau. L'Église, pendant plus de 1000 ans, a vécu ce climat des anges, cette action des anges, de cette influence des anges, qui est beaucoup plus grande qu'on le pense.